Bonsoir, province du Nord Kivu, les rebelles du M23 sont à quelques kilomètres de la ville de Goma. Cependant, le gouvernement congolais affirme que la ville est sous contrôle de l'armée nationale. Il exclut toute négociation avec le M23, mais annonce la poursuite du dialogue avec le Rwanda dans le cadre de la CIRGL. Comment analyser cette situation? Pour en parler, nous recevons le professeur Philippe Bioya, politologue et professeur des relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Professeur Bioya, bonsoir.
Bonsoir.
Ils vont nous rejoindre dans un tout petit moment. Eux, c'est le professeur Bob Kabamba, professeur à l'université de Liège en Belgique. Il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Également le professeur Félicien Kabamba, politologue et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. À tous, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Des tirs à l'arme lourde et légère sont entendus depuis environ 2 heures dans la ville de Goma. Ces tirs sont plus concentrés du côté de l'aéroport international de Goma, au nord de Goma. Nous recevons dans ce studio Samuel Kachak. Samuel, qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment à Goma?
Oui, Alain Rong, c'est la confusion totale. Nous ne savons pas encore ce qui se passe à Goma. D'abord, dans la journée vers 13h locale, les M23 avaient annoncé qu'ils allaient lancer une offensive contre les forces gouvernementales, car les FRDC auraient tiré sur leur position à Mounigui pendant qu'ils se retiraient de cette zone. Mais pour les FRDC, il s'agit d'une fausse allégation du M23. Toutefois, depuis 16h locale, les tirs à l'arme lourde et légère se sont intensifiés vers l'aéroport de Goma et au centre-ville. Ce que nous remarquons, c'est que des blindés et d'autres véhicules militaires sont positionnés dans les endroits névralgiques de la ville, tels que les ronds-points.
Alors Samuel, que disent exactement les autorités à ce sujet?
Pour l'instant, nous n'avons aucune réaction des autorités, ni du côté militaire, ni du côté civil. Et du côté de la MONUSCO, les responsables sont toujours en conclave. Donc, il nous est très difficile de dire avec exactitude ce qui se passe à Goma.
Merci Samuel Kachak. À Kinshasa, le gouvernement parle d'agression du Rwanda. Depuis le 15 novembre dernier, Kinshasa poursuit toujours le dialogue avec Kigali. Selon Lambert Mende, le gouvernement ne négocie pas avec le M23. Le ministre de la Communication est au téléphone d'Innocent Olinga.
Il n'y a aucun élément jusqu'à présent qui nous permette de changer de position. Un tronc d'arbre qui reste dans un marigot même 100 ans ne devient pas un caïman. Donc le M23 ne devient pas un interlocuteur parce que le Rwanda a agressé Goma. Nous savons pourquoi ces forces par procuration du Rwanda s'agitent. Nous n'irons pas dédouaner le Rwanda en désignant un autre agresseur qui n'est qu'une fiction montée pour cacher l'agresseur.
Par rapport à la détérioration de la situation dans le Nord Kivu, Vital Kamerhe appelle la classe politique congolaise et les forces vives à se réunir sans délai pour trouver des solutions appropriées. Le président national de l'Union pour la Nation congolaise l'a déclaré hier dimanche soir devant la presse. L'ancien président de l'Assemblée nationale propose dans son plan de sortie de crise un dialogue avec les rebelles du M23 pour faire taire les armes et mettre fin aux souffrances des populations civiles. Les propos de Vital Kamerhe sont recueillis par François Kadima.
Nous disons, l'armée a été engagée à plusieurs reprises sur le front. C'est le moment de faire taire les armes et de discuter avec les mutins de façon à éviter la répétition de l'histoire. Parce que devant une armée infiltrée, une armée qui a connu à la fois le mixage, le brassage, l'intégration à la congolaise, nous disons on va les faire tuer nos militaires inutilement sur le front. On arrête là, il n'y a pas de honte à négocier. On veut nous faire croire qu'on va nous mettre des verrous qui vont éviter à nos villes de tomber. Il faut, entre deux mots, choisir le moindre. Il y a eu une irresponsabilité à la tête de l'État que nous dénonçons à haute voix aujourd'hui.
Professeur Philippe Biyoya, vous êtes politologue et professeur des relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Professeur, comment vous analysez cette situation qui sévit dans la province du Nord Kivu et à Goma en particulier?
Ben, je crois que l'on doit s'interdire, comme je l'entends, de vouloir en fait plancher sur ce qu'on peut causer comme l'événementiel. Parce que je crois que la situation en l'Est est une situation qui s'est structurée dans le temps. Et nous devons donc savoir en fait que nous sommes là en pleine exécution d'une certaine volonté, non seulement en fait de pays voisins, mais d'une certaine communauté internationale qui estime depuis un certain temps que la RDC ne doit plus être en fait le pays pivot de l'Afrique centrale, que ça doit être un pays en fait nivelé au niveau de la petitesse et d'absence d'ambition de ses voisins. Alors je pense, même si on devrait négocier, on doit négocier dans une certaine posture. Ce n'est pas lorsque on nous prend des villes, lorsque on met en débandade nos armées que nous allons acheter le monsieur. Ça s'appelle l'abdication. Alors je crois qu'il faut qu'on soit serein et qu'on décide. Si effectivement nous devons perdre, on perd dans l'honneur, parce que je crois que on aura perdu une bataille, mais on n'aura pas perdu la guerre. Je crois qu'il faut le problème aujourd'hui, c'est que les Congolais doivent tous comprendre que l'enjeu, ce n'est pas en fait la survie du gouvernement, mais l'enjeu, c'est en fait la dignité pour le peuple et aussi en fait l'avenir de la nation.
Alors, professeur, quand vous faites allusion à la communauté internationale et on pense à tous les balais diplomatiques qu'il y a eu, peut-on dire, avec cette menace autour de Goma, que la dimension diplomatique a failli ou a échoué?
Non, mais il faut savoir que cette attaque contre Goma est la conséquence des démarches diplomatiques du Premier ministre Matata auprès de la France. Si Matata n'était pas parti dire à la France que nous prenions la main de Hollande qui nous avait proposé de faire agir la communauté internationale pour arrêter l'intégrité et l'attaque à la souveraineté nationale, il n'y aurait pas eu ça. Le Rwandais et les Ougandais, ils sont ensemble dans cette affaire pour nous imposer en fait une situation de fait accompli. Moi, j'ai appris en 98 et en présence, si vous permettez que je le dise, de l'actuel président de la République étant en ce moment la chef d'état-major à Addis Abeba, que les Ougandais, les Rwandais, ils négocient tout en faisant la guerre. Alors, vous devez savoir, vous devez connaître comment fonctionne l'adversaire. C'est que ces attaques sont destinées à faire quoi? À dédouaner le Rwanda, comme Mende l'a dit, à faire en sorte que la crise soit essentiellement intérieure et tout ce qui relaye la cause de négociation vont dans le sens, en fait, de disculper le Rwanda, parce que le Rwanda ne veut pas que le Conseil de sécurité se saisisse de la question, et le Rwanda ne veut pas que le mandat qu'il a reçu au Conseil de sécurité soit un mandat africain. Il voudrait l'utiliser pour légitimer ses prétentions contre la RDC. Et je voudrais dire, si je n'ai pas encore le temps, si je n'aurai pas le temps dans la suite, nous ne devons pas oublier que la CIRGIL a été instituée par les Nations Unies contre la réalité de la prétention de la RDC à être la grande puissance. Et c'est contre cela que nous devons nous battre.
Alors, professeur, soyez un peu plus explicite quand vous faites allusion à la visite du Premier ministre Matata Ponyo en France et par rapport et à cette situation autour de Goma. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Mais le Premier ministre Matata est allé à Paris principalement pour en fait répondre à la demande de Hollande exprimée à l'occasion du sommet de la francophonie, parce que Hollande, avec la France, se sont déclarés en fait les seuls à disposer, à faire en sorte que l'intégrité de la RDC soit restaurée et que l'agression soit dénoncée et qu'on mette fin à cela. Parce que tant que nous n'avions pas répondu positivement à Hollande, le Rwanda qui était avec nous au sommet de la francophonie n'a pas fait de gestes pour attaquer, il s'est contenté simplement de bloquer ou d'affirmer qu'il soutenait en fait la M23. Parce que le Rwanda n'a jamais caché son soutien au M23. Donc la M23, c'est l'exécuteur de la volonté du Rwanda. Mais maintenant que la France s'est engagée aux côtés de nous par la visite de Matata, ils n'ont même pas attendu que la France se mette à agir, qu'ils agissent pour, en fait, empêcher que cela se fasse. Que la France agisse à côté de la RDC. Alors, c'est exactement ça. Et cette attaque contre Goma, il faut la comprendre comme ça. Il ne faut pas la comprendre autrement. C'est une attaque qui vient du Rwanda pour, en fait, nous imposer une situation de fait accompli pour bloquer, en fait, la France
bloquer tous ceux qui veulent se mettre de côté à la RDC pour que sur le plan international, au Conseil de sécurité, il y ait une solution dans cette affaire de l'Est.
Professeur, avant de donner la parole aux autres intervenants, quand on voit le scénario tel qu'il se présente, on a l'impression que c'est un peu scénario bis du feuilleton CNDP aux portes de Goma, ainsi de suite. Visiblement, on a l'impression, d'après certains observateurs, que la RDC n'a pas tiré les leçons de cet épisode.
Oui, mais on n'a pas tiré les leçons. Mais pour tirer les leçons, je crois que quelqu'un l'a dit, c'est Caméré, qui dit que nous avons une armée infiltrée. C'est qu'il y a le problème, certainement, dans la manière de mener, en fait, ce combat contre le Rwanda, parce que nous avons une armée où on ne sait pas, en fait, obtenir la loyauté de tous. Hein? Mais ça ne doit pas être une excuse pour que nous permettions, en fait, au Rwanda de faire n'importe quoi. Puisque vous parlez du CNDP, mais le CNDP avait des prétentions, des velléités qui venaient d'où? Qui venaient encore une fois de plus, en fait, du Rwanda. Parce que ce qui a arrêté le CNDP, qui a fait que le CNDP disparaisse et qu'il redevienne M23, et ce n'est pas le Rwanda. L'erreur que nous avons commise, c'est d'avoir vous comparé avec le Rwanda pour, en fait, l'aider de chaque fois à cacher les différents visages de sa nuisance, de sa malveillance contre
nous. Merci. Merci professeur Philippe Bioya. Professeur Félicien Kabamba, vous êtes politologue et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Vous avez suivi tout à l'heure à Goma sur place, c'est la confusion totale. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Professeur, quelle est votre analyse?
Oui, disons que ce qui arrive, on l'attendait déjà. Ce n'est nullement une surprise. Tout le problème maintenant, c'est de voir la réalité en face, c'est de dire, ok, la situation étant ce qu'elle est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, vous avez une position qui est soutenue par Vital, qui vous dit, oui, c'est bon, les autres demandent d'aller vers des négociations, mais ce qui est certain ici, c'est que on ne peut pas aujourd'hui adopter une option militaire sans armée. Et ça c'est une position qui me semble aussi intelligente que ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, si on laisse la situation pourrir, eh bien, sans armée, les autres vont tout prendre. Ils vont non seulement prendre le nord Kivu, mais ils prendront ensuite le sud Kivu, notamment la ville de Bukavu, et donc ils prendront de plus en plus d'envergure, et ce qui va compliquer les négociations plus tard. Et donc, ça, c'est un point de vue qui est émis par Vital Caméré, mais l'autre point de vue qui me semble être celui du gouvernement est celui de dire, ok, le 23 n'est pas un interlocuteur, l'unique interlocuteur c'est le Rwanda, et s'il y a négociation à faire, nous allons négocier avec le Rwanda. Et que donc, nous sommes déjà en train de parler avec nos amis rwandais, c'est peut-être probablement de là que viendra la solution. Et donc, nous avons là deux positions qui, à mon avis, ne sont pas conciliables, mais l'une et l'autre ne manquent pas de pertinence. Le problème, c'est de voir la réalité en face aujourd'hui, de se dire, ok, mais quelle est la position qui présente beaucoup plus d'avantages? Et il me semble bien que, du point de vue de Vital Caméré, les choses se posent également en termes de faire quelque chose pour la population, étant donné que tant qu'on ne négocie pas, la guerre va continuer et elle va faire beaucoup de ravages et elle fera également beaucoup de dégâts au sein de la population. Et moi je crois que par rapport à ça, Kinshasa est interpellé parce que il me semble bien que au niveau de la préparation de l'armée, les choses ne sont pas très bien passées. Le professeur Biouvia venait de décrire un tout petit peu la situation de l'armée qui, à mon avis, a été caractérisée par l'alternance de plusieurs méthodes de préparation de l'armée. Il y a eu Amanileo, il y a eu la politique de régimentation de l'armée. Et donc tout ça n'a pas produit les mesures d'armée qui aujourd'hui doivent être véritablement
professeur Kabamba, si vous pouvez bouger un tout petit peu, la qualité de votre ligne a tendance à se dégrader.
Ok, est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, allez-y, je vous en prie.
Oui, je disais que la situation de l'armée est aujourd'hui une situation très difficile. Tout ce qui a été fait pour préparer l'armée, notamment avec l'opération à Manilio, la régimentation de l'armée et autres, n'ont pas permis la construction d'une armée forte qui répond aux besoins de sécurité des populations et du pays.
Alors,
aujourd'hui,
professeur,
on est là en face d'une situation assez compliquée. Alors, allons-nous négocier ou on s'est dit, voilà, on attend la situation pour rire avant de nous préparer. Donc là, c'est, à mon avis, un dilemme, un choix extrêmement difficile, parce qu'il faut regarder également la situation de la population, regarder également la situation de la RDC en tant que pays, en tant que nation qui a un honneur à vanter. Et donc, voilà, là, on est quand même dans une situation très, très compliquée.
Alors, professeur, à vous comprendre, faut-il exclure l'option militaire?
À mon avis, c'est une option qu'il ne faut pas exclure, mais dans la situation actuelle, est-ce que notre armée a-t-elle une situation psychologique, est-elle dans une situation psychologique et une situation technique qui est susceptible de le conduire à une victoire? C'est là que Vital Kamerhe vous dit non. Vous dites, dans la situation actuelle où elle est infiltrée, eh bien, il n'est pas possible d'envisager une option militaire. Il faut plutôt aller vers une négociation.
Alors, professeur, vous avez également suivi l'analyse du professeur Biyoya quand il parle du déclic concernant cette attaque. Il attribue notamment à la visite du Premier ministre en France. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Oui, ce n'est pas l'unique élément. Ce n'est pas l'unique élément. Il a bel et bien raison de mentionner que c'est peut-être l'un des éléments qui a finalement déclenché, mais il y a bien d'autres éléments. Je crois que l'appel à la négociation a été lancé par le M23 depuis longtemps, et ils ont attendu bien entendu qu'il y ait cette francophonie, qu'elle passe, et puis qu'il y ait cette visite, et puis il y a eu d'autres développements, notamment le piétinement de négociations autour de la formation de cette force régionale. Et donc, c'est tous ces faits combinés qui, finalement, ont déterminé cette attaque qui, à mon avis, n'est pas une surprise du tout. Elle pouvait intervenir avant, elle pouvait même intervenir après, mais c'est quelque chose qu'on attendait depuis.
Professeur Bob Kabamba, bonsoir. Est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, bonsoir, je suis en ligne après quelques difficultés d'ordre technique pour arriver à ce que vous puissiez me joindre.
Merci professeur. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. La RDC est dans une situation très difficile, disait tout à l'heure le prof Félicien Kabamba. Le professeur Biyoya a énuméré également certaines causes. Professeur, quelle est votre analyse?
Bonsoir, je voudrais d'abord, permettez-moi de saluer les auditeurs de Radio Capi ainsi que mes collègues que je n'ai pas pu suivre toutes les interventions à cause des problèmes techniques. Mais laissez-moi vous dire tout de suite que la situation pour ma part est très très grave par rapport à la situation telle qu'elle est en train d'évoluer sur le terrain. Et de plus en plus, les puzzles commencent à se mettre en place et on commence à y voir un peu plus clair par rapport à ce qui risque de se passer dans les prochains jours et les prochains mois. Je suis inquiet parce que, tout simplement, il ressort maintenant clairement que les cartes commencent à être abattues sur la table. On voit très bien que l'objectif qui est suivi ici, de manière très claire, sans ambiguïté, c'est d'arriver à détacher l'Est du Congo de l'influence de Kinshasa. Et là, c'est plus grave, ça veut dire grosso modo que le M23 le Rwanda via le M23, est en train de réussir ce qu'il a toujours cherché à avoir, c'est-à-dire sa zone d'influence clairement identifiée et clairement établie dans l'est de la RDC. Alors cette affirmation me vient nous ressort de différentes analyses et de différentes déclarations qui ont été faites par, d'une part, les autorités rwandaises elles-mêmes, par la bouche donc de son ministre de la Défense, James Kabarebe, et ensuite par les déclarations et les revendications du M23 qui ne laissent plus planer de doute. Je m'explique. Quand le M23 spécifie de manière très claire, demande une zone démilitarisée dans l'est de la RDC, en commençant par Goma et ses environs, cela voudrait dire de manière très claire, sans ambiguïté, arriver à ce qu'on crée ce qu'on appelle une zone tampon, et cette zone tampon sera sous contrôle et sous influence de manière significative par le Rwanda via le M23. Par ailleurs aussi, lorsque l'on suit les déclarations du ministre de la Défense rwandais, il déclare auprès de plusieurs médias que le gouvernement congolais les avait sollicités pour obtenir d'une part l'arrestation de Boko Ntaganda, d'autre part obtenir la permutation de toutes les troupes ex-MDP qui étaient déployées dans l'Est à l'intérieur de la RDC. Et ces mouvements de troupes qui devaient être opérés à ce moment-là allaient de manière très claire baisser l'influence du Rwanda sur cette zone. D'où aussi la création du M23 pour que le Rwanda garde le contrôle de cette zone. Et pourquoi est-ce qu'il doit garder le contrôle de cette zone? C'est qu'on doit mettre aussi en lien de manière très claire ce qui est en train de se passer dans l'est de la RDC et ce qui est en train de se passer à Kinshasa, à Kigali, comme vous le savez très bien, ça nous a voulu dire qu'on est en train d'aller vers la succession de Paul Kagame lors des prochaines élections. Qui va être son successeur? Et du côté du régime rwandais, il apparaît très très, très clairement qu'il y a quand même une série d'antagonismes qui sont en train d'émerger, et la guerre à l'Est aide à pouvoir calmer ces antagonismes qui sont en train de naître à Kigali entre les différents partenaires. Je voudrais terminer par le fait que, si le M23 est en train de chercher la zone démilitarisée, vous pouvez vous imaginer les conséquences que cela pourrait avoir en termes de crédibilité des institutions politiques congolaises et aussi en termes d'unité du territoire congolais. Et on irait vers ce que plusieurs dénoncent déjà, une certaine balkanisation de la RDC.
Professeur.
Ce qui voudrait dire, de manière claire, sans ambiguïté, que ce serait la fin du régime politique à tout cette fin.
Professeur, mais quand le gouvernement soutient poursuivre le dialogue avec le Rwanda dans le cadre de la CIRGL, finalement, à quoi faut-il s'en tenir?
Il faut s'en tenir à ceci, il faut bien se rendre compte que, de toute façon, de manière très claire, le Rwanda ne cache pas ses ambitions, n'a jamais caché ses ambitions vis-à-vis des territoires qui sont situés donc à l'est du Congo. Le Rwanda n'a jamais caché ses ambitions à plusieurs reprises depuis plusieurs années, et même les accords dont fait référence le M23, c'est-à-dire les accords du 23 mars 2009, et qui précise de manière très claire avec l'intégration et le brassage de troupes ex-MDP et leur déploiement dans la zone qui est convoitée par le Rwanda, cet accord permettait effectivement de pouvoir consolider une certaine, entre guillemets, hégémonie rwandaise sur l'est de la RDC. Or, en remettant en cause cet accord du 23 mars 2009, on a déclenché une guerre et que l'on est en train de subir, et ce sont les populations civiles, malheureusement, qui sont les victimes et qui vont continuer à être victimes avec autant de millions de déplacés et autant de centaines de milliers de morts que l'on est en train de comptabiliser.
Professeur, je vous demande de répondre en une phrase à Billy Mbayo, notre internaute, qui dit: nous devons arrêter avec des négociations stériles. La solution est la délocalisation des institutions de Kinshasa pour Goma jusqu'à la fin totale de l'insécurité à l'Est, parce que nous avons compris une chose: le Rwanda se joue de nous. À chaque négociation, il y a une forte infiltration des éléments rwandais venus en appui au M23.
Première chose, ça ne va rien changer sur le terrain à ce que le gouvernement, les autorités de Kinshasa se déplacent pour être à Goma. Ça ne va rien changer. Et pour la bonne et simple raison, on a déjà évoqué à plusieurs reprises le fait que l'armée congolaise, malheureusement, elle n'a pas encore les moyens de pouvoir assurer la sécurité et des Congolais et des Congolaises, ainsi que des frontières de la RDC. Et par ailleurs aussi, il faut bien se rendre compte de quoi on parle quand on parle de l'armée congolaise. On sait bien qu'il s'agit d'un conglomérat d'anciens rebelles qui n'ont aucune formation politique, sécuritaire, etc. Très peu ont fait l'école militaire, très peu savent lire des cartes militaires, très peu savent effectivement mener une guerre. Et donc, de manière claire, on peut se rendre bien compte de ce qui est en train de se passer. À lire les témoignages des uns et des autres, on se rend bien compte que ce n'est pas ça la solution. La solution réside de manière très claire à ce que Kigali et Kinshasa parviennent à se mettre d'accord sur cette question liée à la zone d'influence que le Rwanda revendique à l'est de la RDC.
Professeur Philippe Bioya, vous avez suivi le professeur Bob Kabamba. Quand le M23 demande une zone démilitarisée, une zone tampon, quelles conséquences cela pourrait avoir d'après vous?
Je voudrais d'abord saluer le professeur Bob, mon ami, pour la convergence de vues, parce que je suis de ceux qui, depuis très longtemps, avaient toujours prévenu que dans la question de l'Est, il y ait problème de sphère d'influence, de zone d'influence. Le Rwanda a toujours travaillé à disposer d'une zone d'influence politique pendant que l'Ouganda cherchait une zone d'influence commerciale. Et je pense que Bob a eu le mot juste lorsqu'il dénonce en fait la revendication de la démilitarisation de Goma. Mais je ne suis peut-être pas d'accord avec le pessimisme autour de notre armée, parce que nous n'avons pas que notre armée. Nous avons des accords de défense avec des pays dont l'Angola, même si la Belgique ne voudrait peut-être pas faire jouer cet accord-là. Donc nous n'avons pas encore perdu en ressources de nous défendre. Mais le problème, c'est à chaque fois que nous voulons faire agir ces accords que nous avons signés, c'est la fameuse communauté internationale, c'est toujours en fait l'Union européenne qui s'oppose à la régionalisation de la situation, alors que la guerre, elle est régionale. Parce que ce qui se passe, et je suis d'accord avec Bob, que tout ce qu'on voit faire, c'est le ministère de la Défense rwandais qui le fait. Il y a une harmonie entre le ministère de la Défense et leur ministère des Relations extérieures. En fait, ils ont des soutiens à l'extérieur. Donc, lorsque nous disons que pour mieux négocier, nous devons négocier avec le Rwanda, parce que c'est le Rwanda qui a des revendications. C'est pas les M23, c'est pas les CNDP. Et qu'il ne faut pas que des parties congolaises manquent de jugement simplement parce que il y a des velléités, il y a des ambitions. C'est avec le Rwanda. Si le Rwanda veut être sécurisé dans ses ambitions en ce qui concerne son pouvoir à l'interne, je crois que c'est la RDC qui doit être capable, en fait, du pouvoir. Mais parce qu'une RDC faible, même avec les M23, même avec des gouvernements qui pourraient faire avec ceux qui voudraient, en fait, adhérer à leur initiative, le Rwanda n'aura jamais de la RDC le moyen d'une sécurité pour ses propres problèmes internes. Alors, je crois que les Rwandais ne doivent pas simplement être aveuglés par le court terme, par les nécessités, en fait, de régler leurs problèmes en détournant leur opinion interne de vrais problèmes à l'intérieur et pour, en fait, se mettre à exécuter des agendas que la communauté internationale a conçus pour nous affaiblir. Donc, moi, je suis parfaitement d'accord avec Bob et je suis d'accord avec le gouvernement jusqu'au jour d'aujourd'hui que pour mieux négocier, nous négocions avec le Rwanda, mais nous négocions dans une certaine situation de force. Parce que autrement, ça n'a pas de sens.
Professeur, deux auditeurs pour vous. Jado Igilima de Bukavu, Sud Kivu. C'est vraiment regrettable pour notre gouvernement de continuer à accuser le Rwanda, de soutenir le M23. Et pourtant, même si cela s'avérait vrai, la solution ne serait pas la négociation, mais le mieux serait de défendre l'intégrité nationale en boutant dehors et le Rwanda et le M23. Le contraire, c'est une humiliation. Kalinde Rizi qui Kaboui Christian qui nous écrit du Gabon. J'ai l'impression qu'on passe notre temps à vouloir prouver que le M23 est soutenu par le Rwanda, que de mettre en place des stratégies pour combattre malgré le soutien qu'il obtient du Rwanda, professeur Bioya. Brièvement, je vous en prie.
Je ne pense pas qu'ils aient raison, et parce qu'ils n'ont pas, ils comprennent pas les relations internationales, ils comprennent rien de la guerre, ils comprennent rien de la diplomatie, ils sont excusables. Je ne dis pas pour autant, je ne voudrais pas dédouaner complètement le gouvernement. J'avoue que ce qui nous arrive, c'est la conséquence de ce que nous avons été naïfs à un moment. Nous avons tellement cru à la communauté internationale. Nous avions tellement cru qu'il fallait aller dans le sens de la communauté internationale pour, en fait, tout donner au Rwanda. Et nous avions ignoré ce que Bob a dit et ce que moi j'ai dit, que le Rwanda avait des prétentions qui étaient contraires à tous les droits internationaux auxquels nous souscrivions. Donc, je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, qu'il soit question de blâmer le gouvernement, au jour d'aujourd'hui, il est question de savoir comment il faut arrêter la folie rwandaise, la folie ougandaise, pour, en fait, que et l'Ouganda et le Rwanda et nous donnions sens aux institutions internationales, notamment régionales. Parce qu'on ne peut pas continuer de parler de la surgile, alors que le Rwanda et l'Ouganda ne croient pas aux surgiles. On n'a pas créé les surgiles simplement pour la RDC. Nous ne sommes pas là pour exécuter les volontés des autres. Nous sommes là pour être dans un partenariat avec les autres. Parce qu'ici, là, nous ne comptons pas comme des partenaires. Et on nous voit comme un espace. On n'a aucun regard, en fait, à notre souveraineté. Et on n'a même pas un brin de confiance à la capacité de notre gouvernement de faire des choses dans le sens, en fait, de rencontrer les intérêts des autres. Et c'est ça qui est très grave. Vous allez discuter avec des gens qui ne croient pas en vous. Avec des gens qui pensent que vous ne valez absolument rien. Avec des gens qui pensent que vous devez travailler pour eux. Qu'est-ce que vous allez négocier?
Merci, professeur. Professeur Félicien Kabamba, il y a Sylvain de Lumbashio Katanga qui dit: nous regrettons la position du gouvernement de tendre la main au Rwanda pour résoudre résoudre la question de l'Est, alors que ce dernier n'affirme pas l'existence de ses troupes dans les rangs du M23. Je pense que la solution à ce problème ne viendra que par un dialogue franc entre le pouvoir, le M23, l'opposition et la société civile, afin d'identifier la responsabilité pour la paix durable, professeur.
Et en fait, là, c'est la position défendue par l'M23 lui-même. Je crois qu'il serait, il faut bien suivre ce que le professeur, mes prédécesseurs ont dit. Moi, je ne me suis pas positionné ni pour une position, ni pour une autre. Par contre, ce que je constate, c'est que, en fait, même en négociant avec le Rwanda, on va négocier sur quoi? En négociant avec l'M23, quel sera l'objet de la négociation? Parce qu'en fait, il est plus facile pour le gouvernement congolais aujourd'hui de prendre une position, mais c'est, ce qui est mieux, c'est d'expliquer, ok, nous irons négocier avec le Rwanda, mais sur tel point et tel autre. Tant il est vrai qu'on connaît bien les prétentions du Rwanda sur l'est du pays. Et que donc, un officiel rwandais disait qu'aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas vivre avec une frontière à l'est de la RDC qui est fermée. Donc, l'est de la RDC représente un enjeu de taille pour le Rwanda. Et donc, si il faut négocier, vous devez avoir en tête qu'en fait, pour le Rwanda, la question de l'est de la vie tient à la survie de ce pays-là. Ils ont une démographie, donc une densité de la population très élevée, ils ont une économie qui est devenue très dépendante de la nôtre, et donc, ils ont besoin de la RDC pour continuer à tenir le coup. Et du coup, il faut que l'agenda de négociation soit un agenda qui est partagé, qui est connu. Il faut que le Congolais sache qu'évidemment, en allant négocier avec le Rwanda, nous allons mettre sur la table telle matière et telle autre. Le M23, ce qui est vrai, c'est que le M23 ne vaut rien sans le Rwanda. Le M23, c'est des gens dont on parle parce que le Rwanda est derrière eux. Parce qu'en fait, c'est le Rwanda qui fait la guerre, mais en présentant le M23 comme étant, donc, des personnes. Évidemment, le mode opératoire du Rwanda est connu depuis la guerre de l'AFDL. Le Rwanda vous dit toujours que c'est pas lui, mais finalement, le Rwanda va apparaître. Et donc, s'il faut négocier, selon le professeur Bias, avec le Rwanda, eh bien, bien entendu, il faut savoir qu'en allant négocier avec le Rwanda, il faudra qu'on sache bien l'agenda des négociations. Parce que ici, il est très difficile pour le Congolais de comprendre quel est le jeu réel que joue le Rwanda, mais, évidemment, quand on voit les différents enjeux, eh bien, on réalise ce que le Rwanda est en train de chercher à travers tout cet exercice qu'il a commencé depuis plusieurs années. Et ça, c'est devenu une question cruciale. Il faut absolument préciser l'agenda des négociations. Les négociations, oui, mais ça va porter sur quoi?
Toujours en ce qui concerne la situation à Goma, la population kinoise n'est pas restée indifférente. Si pour les uns, ce qui prévoit actuellement dans la ville de Goma nécessite l'intervention urgente du gouvernement en organisant l'armée nationale, pour les autres, cette situation est tout simplement inadmissible. La population s'est ainsi exprimée au micro de Radio Capi.
Oui, la situation qui se passe à Goma, j'ai honte. Tout le monde le connaît. Qui est l'agresseur et qui est agressé, mais on ne fait rien.
C'est notre armée qui doit faire la réorganisation pour défendre le pays.
Dans un premier temps, c'est une situation à regretter. Parce que la paix a un prix. Et ce prix a été payé depuis les indépendances. C'est le cas de Lumumba que nous avons perdu. Mais si aujourd'hui, il doit y avoir encore des gens qui meurent parce qu'ils ne sont pas sécurisés. Ce n'est pas possible, c'est inexplicable.
On dérange le peuple congolais. À l'est, là-bas, ils sont en train de souffrir, ils passent une mauvaise journée à tout moment, mais on ne comprend pas la situation. Il faut que nous tire un peu le problème.
C'était le dégoût tout d'abord. Je ne peux pas comprendre qu'on a une armée et cette armée doit, à chaque attaque, reculer.
C'est le revers de la médaille. Kabila peut tout nous dire maintenant, parce que c'est lui qui est l'auteur de tout ça.
Professeur Félicien Kabamba, là, c'est quelques Kinois qui s'exprimaient sur la situation qui prévoit à Goma. Avez-vous l'intention, d'après vos analyses, que cette question qui est une question nationale, que toutes les populations des autres provinces se sentent concernées par cette situation?
Oui, bien entendu. Toutes les populations se sentent très concernées. Si aujourd'hui vous avez pris un transport en commun, eh bien, vous allez vous rendre compte que dans tous les bus, c'était la question à l'ordre du jour. Dans toutes les rues, tout le monde parle de la question de l'est du pays. Et pour les familles qui ont les leurs à l'est du pays, notamment à Goma, eh bien, des coups de téléphone retentissent à tout moment. Donc, c'est devenu une question au cœur de la vie de la RDC aujourd'hui. Et je crois que ça augmente l'inquiétude de chaque Congolais quand on réalise qu'aujourd'hui, en fait, l'une des grandes plaques tournantes de l'économie du pays, donc Goma, est en train de tomber.
Professeur Bob Kabamba, l'intégration économique au niveau de la sous-région serait-elle parmi les solutions? Professeur Bob Kabamba.
Sur la même question, c'est qu'il ne faut pas uniquement voir le Rwanda. Il y a aussi d'autres anges, d'autres forces, d'autres acteurs, aussi bien internes à RDC qu'externes, c'est-à-dire des acteurs internationaux, qui ont intérêt par rapport à ce qui est en train de se passer à l'est de la RDC, pour qui cette situation est une aubaine, non seulement en termes financiers, mais aussi en termes d'accessibilité à toute une série de matières premières, de pétrole, etc., etc. Et donc ça aussi, il ne faut pas non plus oublier ça. Mais alors, dans ce cas-là, quelle est la réponse qu'il faudrait apporter à cette question fondamentale? Il est en fait que l'intégration économique peut être une des voies. Mais cette intégration économique ne doit pas être une imposition, ni ce qu'on appelle un partage inégal des bénéfices de l'intégration économique. Ça doit être un bénéfice partagé. Je prends l'exemple de l'Union européenne, où effectivement, au début de l'intégration économique sur l'espace européen, a eu des effets positifs pour ceux qui participent à cette intégration. Et donc, il est capital que l'intégration économique soit aussi bien bénéfique au Congo, qu'au Rwanda, qu'à l'Ouganda, qu'au Burundi, Tanzanie, Kenya, etc. Et puis, qu'à ce moment-là, lorsque l'on a les effets bénéfique, on parle d'une intégration économique positive et non pas négative qui amène des distorsions comme c'est le cas actuellement. C'est-à-dire actuellement, quand je dis actuellement, pourquoi lorsqu'on regarde effectivement les balances des paiements, les balances extérieures entre le Rwanda et le Congo, vous allez voir de manière très claire qu'au niveau macroéconomique, le Rwanda tire beaucoup de la possibilité de pouvoir bénéficier de tout le potentiel de l'Est du Congo, que l'Est du Congo ne peut en tirer. Donc il y a un déséquilibre qui va, de manière très claire, en faveur du Rwanda. Et cette intégration, donc, c'est une façon de corriger, effectivement, ce que l'on constate aujourd'hui et pour lequel le Rwanda veut que cette situation se maintienne dans l'état, puisque c'est le Rwanda qui tire plus profit de cette situation telle qu'elle est en train de se passer dans l'Est du pays.
Alors, en guise de solution, professeur, puisqu'il nous reste moins de 6 minutes pour terminer l'émission, vous dites qu'il ne faudrait pas seulement voir le Rwanda, il y a d'autres forces internationales qui tirent profit de cette situation. Par rapport à ces forces obscures, qu'est-ce qu'il faudrait faire, professeur?
Ce n'est pas des forces obscures, hein. Ce sont des acteurs qui sont connus sur le marché international des minerais, mais aussi, il ne faut pas uniquement voir, comme j'ai bien expliqué, il ne faut pas voir uniquement l'extérieur, il y a aussi dans l'interne, c'est-à-dire au Congo même, où on a des situations pour lesquelles cette situation favorise certaines personnes au détriment de l'État congolais. Je pense notamment à toute une série de trafiquants, à toute une série de personnes qui profitent de cette situation pour pouvoir avoir la possibilité de vendre plus facilement leurs minerais et de pouvoir récolter un quelconque bénéfice. Je pense aussi à toute une série d'autres groupes, qui soient aussi peut-être dans l'armée, où lorsqu'on a une situation comme ça, c'est l'occasion de pouvoir, entre guillemets, je mets vraiment entre guillemets, pouvoir, par exemple, bénéficier de l'attention et des moyens financiers qui sont dégagés par Kinshasa pour aider l'armée, pour détourner soit des munitions, soit le solde des militaires, ou voire même la nourriture des militaires à leur propre profit. Donc il y a tout ça qu'il est important de pouvoir voir. Et pour ma part, la solution, il y a d'une part le niveau d'abord, le niveau local, où on sait très bien qu'au niveau local, dans les Massissi, il y a un problème de pouvoir dans cette partie. Ce problème est exploité par le Rwanda pour pouvoir maintenir son objectif qui est clairement identifié. Il faut résoudre ça à ce niveau-là. Il faut résoudre le problème au niveau de la province et du Nord et du Sud-Kivu sur la question de cohabitation communautaire. Il faut résoudre le problème au niveau congolais de manière très claire, mais aussi au niveau régional, par la dimension donc de l'intégration, mais qui soit une intégration positive qui profite à tout le monde et pas, comme dans le cas actuel, à un pays qui tire l'essentiel des bénéfices des potentiels qu'il y a à l'est du Congo.
Et donc, en un mot, professeur, en interne, il faut un dialogue national.
pas un dialogue national comme vous l'entendez. En fait, c'est uniquement répondre à des questions qui se posent. C'est-à-dire, vous avez des problèmes qui se posent dans les Massissi, dans le retour. Mais il faut répondre à ces problèmes qui se posent. C'est pas uniquement par le dialogue. On connaît ces problèmes. On connaît les problèmes liés à l'accessibilité, liés à la terre. On connaît les problèmes liés aux réfugiés qui ont vendu leur terrain et puis après qui sont allés se réfugier au Rwanda et puis qui reviennent et qui revendiquent les mêmes terres qu'ils avaient déjà vendues et qui créent maintenant des différents problèmes. Et donc toutes ces questions-là doivent être résolues. Tant que ces questions ne sont pas résolues, on va continuer à tourner en rond sans arriver à solutionner des problèmes qui se posent au niveau local.
Merci.
Et ce sont ces problèmes-là qui sont exploités par le Rwanda.
Merci, professeur Bob Kabamba. Il nous reste moins de 3 minutes pour terminer. Professeur Philippe Biyoya, il faut résoudre un certain nombre de questions évoquées par le professeur Bob Kabamba. Quelle est votre analyse à ce sujet en guise de conclusion?
Je délivre sur ça. Il y a un que je peux pas, qui doit sortir, intitulé « Comment mettre fin à la spirale de guerre à l'Est ». Nous devons partir, comme le professeur Kabamba le dit, de la thèse que tous les pays que de la région, le Rwanda, l'Ouganda, la RDC, comme le Burundi, ont des problèmes internes qui doivent être résolus. Et il ne faudrait pas que certains pensent que pour résoudre leurs problèmes internes, il faut en fait qu'on fasse l'impasse sur la RDC. Parce que si aujourd'hui il y a problème, c'est parce que Museveni, qui est confronté au problème de légitimité à l'interne contre les Baganda, a besoin des ressources du Congo pour faire le développement, pour que les Ougandais l'aiment. Au Rwanda, c'est la même problématique. Les Tutsis qui sont au pouvoir ont besoin de créer un autre avenir, en fait, qui ne répète plus l'histoire de leur minorité. Mais il y a moyen de renoncer aux égoïsmes pour, en fait, privilégier l'interdépendance, pour que chacun, à l'interne d'abord, mette en place des politiques qui soient, en fait, soutenables par l'autre et qui créent un autre contexte régional. Jusqu'ici, on n'a pas travaillé à ça. On travaille de façon égoïste. Et ceux qui nous ont conseillé l'intégration régionale, comme on a dit, on l'a pas voulu dans la capacité de résoudre le problème, mais on l'a voulu, en fait, pour imposer un certain statu quo qui était, en fait, défavorable à la RDC. Et je pense que nous avons le devoir, nous, la RDC, d'agir autrement, d'anticiper. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas une gouvernance économique, une gouvernance politique, diplomatique, qui, en fait, anticipe et qui agisse pour prévenir toutes les velléités.
Merci, professeur Philippe Biyoya. Professeur Félicien Kabamba, conclusion.
Oui, la conclusion, c'est que, attention, on a là deux options, une option militaire et une option de négociation. Et en ce qui concerne l'option de négociation, il faut faire très très attention, parce que on a l'habitude à négocier des accords qu'on a difficile à appliquer. Aujourd'hui, on a affaire à 23 qui déclare avoir signé des accords qui ne sont pas respectés. Prochainement, s'il faut signer des accords, il faut qu'on s'engage pour des choses pour lesquelles on sera en mesure de rester.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention et bonne suite des programmes sur Radio Capi.